Est-ce la bonne décision ? Est-ce trop tard pour moi ? Prenez vos décisions d'investissement avec le soutien de Clarity AI. Gérez votre portefeuille tout en lui assurant une croissance durable grâce à l'association d'une IA puissante et d'une grande expérience de l'industrie. Notre technologie augmente l'efficacité des processus réglementaires, y compris ceux liés à l'article 29 de la loi Énergie-Climat. Réduisez les risques et atteignez vos objectifs de durabilité en vous basant sur des faits vérifiés et des méthodologies transparentes. Clarity AI, la technologie au service des décisions humaines. Rendez-vous sur clarity.ai et passez à l'action dès aujourd'hui.
Nathalie Janson, bonjour.
Bonjour Nicolas.
Professeur à Neoma Business School, qui est le rapprochement des écoles de commerce de Rouen et de Reims. Sylvie Matera, bienvenue.
Bonjour.
Vous êtes économiste, senior advisor du cabinet de conseil d'audit Mazars. Vous avez contribué à une époque de votre vie aux travaux du comité de Bâle. Ça m'intéressera d'avoir votre avis sur la régulation ou pas qui s'impose autour des fameuses cryptos et Ronan Le Moal. Bonjour.
Bonjour.
Fondateur d'Épopée Gestion, fonds d'investissement régional. Ça fait 3 jours, Nathalie Janson. Vous êtes une fan de crypto. 3 jours que je peux le dire vulgairement ou proprement. Il n'y a pas de too big to fail avec FTX, il n'y a pas de risque systémique. Voilà, on a joué, on a perdu, c'est la vie de celui qui va au casino, je vais me faire détester. Quel est votre avis?
Oui, effectivement, vous allez vous faire détester. Voilà, ça c'est une certitude. Pour le reste, oui, alors cette affaire, elle est effectivement elle est impressionnante parce qu'elle est dans... En fait, la chute est aussi impressionnante que l'ascension.
Ah ben, tout simplement. Ça valait 32 milliards de dollars de capi encore une semaine.
Oui, puisque c'était effectivement le petit dernier FTX dans le monde des plateformes de trading. Il est arrivé en 2019 par rapport à des dinosaures comme Coinbase qui était là à la première heure.
Ah oui, Coinbase.
2013, ça nous semble extrêmement lointain tout ça. Effectivement, c'était le petit dernier qui était fait exactement pour le trading en crypto. Donc il était sur tous les montages qui permettaient de prendre des positions sur les cryptos. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il a eu du succès, parce qu'il est arrivé au bon moment, parce que 2021, c'est l'année crypto, et c'est l'année crypto en termes de trading. Alors je ne vais pas faire ma rabat-joie, mais il y a un petit lien quand même avec la masse de liquidités qui circule dans l'économie, dans cet effet positif sur les plateformes de trading.
Ça, je vous l'accorde. Hein.
Voilà. Et c'est d'ailleurs aussi le fait qu'il y a eu un serment de la politique monétaire américaine qui met effectivement ses acteurs en difficulté.
FTX visiblement a fait des montages légèrement hasardeux.
Oui, mais
pas liés aux décisions de la Fed.
Avec la remontée des taux, les montages hasardeux se révèlent carrément au niveau de l'épuration. C'est-à-dire que effectivement,
j'aime bien le terme d'épuration.
Voilà.
Oui.
Il est monté vite et il va descendre encore plus vite puisque on a et je pense que là où l'impact est très important, c'est que contrairement aux autres acteurs dont on a pu entendre parler avant, Celsius, enfin, c'était plus confidentiel, c'était plus pour les personnes.
C'est pas le premier trépas dans le domaine.
Voilà, exactement. Mais c'était des activités spécifiques de la crypto, pas de personnage principal. Lui, c'était un personnage.
Ah oui, c'était... deuxième donateur du Parti
exactement,
démocrate.
Exactement. Il était accepté.
Je pense qu'il avait arrêté de donner.
Voilà, il était accepté dans tous les milieux. Il avait dit qu'il voulait collaborer pour une réglementation fait ensemble au mieux. Enfin, il s'était même fait dernièrement. Avec la baisse des marchés crypto et donc les premières faillites, on lui avait même donné le surnom du prêteur en dernière sort du marché crypto. Donc, on lisait régulièrement dans les articles spécialisés de la presse crypto que c'était donc ce personnage. Il faut savoir qu'il y a même pas 3 semaines, il disait que tout allait bien et qu'il allait lancer son stablecoin. Voilà, pour faire comme Binance, puisqu'en fait son grand modèle concurrent, c'est Binance, qui est effectivement la plateforme la plus importante en termes aussi de trading, puisqu'en fait FTX a
fondé à Hong Kong, mais inscrite au Delaware d'ailleurs.
Pour Binance.
Oui.
Alors là, il faut savoir qu'en fait, elle est interdite aux États-Unis, Binance.
Comment ils peuvent être inscrits au Delaware?
Parce qu'ils ont dû faire une société exprès au niveau des États-Unis. Ils étaient sous une.
Bon, on digresse, Nathalie. Mais
voilà.
Bon.
Voilà. Donc en fait, c'est ça, je pense, qui est aujourd'hui qui a le plus impressionné. Et puis, qui a aussi pris de surprise, je pense, les gens les plus établis, c'est qu'en fait, ils se sont fait berner. C'est-à-dire qu'en fait...
C'est pas une escroquerie, ils se sont fait berner.
En tout cas, ils ne voyaient pas voir si c'est une escroquerie, mais les gens établis se sont fait berner.
Mais on est d'accord.
Ils ne s'attendaient pas du tout à découvrir un personnage aussi escroc qu'en fait on le découvre
même,
au fur et à mesure de...
D'ailleurs, c'est Nathalie Janson nous racontait, Sylvie Matera nous racontait qu'elle l'avait vu sur scène.
Il était connu pour ça, pour arriver très décontracté.
Il monte et Jamie Dimon monte derrière, donc c'est quand même un personnage qu'on avait vraiment porté au nu.
Oui.
Mais la question que je pose, il y a un risque systémique? Sylvie Matera ou pas? Alors,
bon, d'abord, pour revenir sur votre anecdote, effectivement, qui illustre tout à fait le fait qu'il y a un mois à peine, c'était encore une star. Effectivement, aux réunions du FMI...
Il s'appelle Sam Bankman-Fried. Hein,
voilà. Vous... Aux réunions du FMI il y a un mois, il était invité à ces réunions. Il y a aussi le lobbyiste international des grandes banques mondiales. Et donc, il avait été invité par cette organisation et il nous a fait une démonstration sur scène. Alors, il est arrivé en Bermuda, t-shirt et tennis au milieu de tous ces messieurs en costume cravate pour nous expliquer à quel point on était ringard, quoi, qu'il fallait que la finance traditionnelle était dépassée et que non, il nous a expliqué le miracle de la nouvelle finance et un mois plus tard, finalement, il n'est plus rien. Donc, c'était. Mais là, je pense que, effectivement, ce qui est problématique dans sa plateforme, c'est. Là, on parle des cryptos, mais c'est une plateforme de trading. Il aurait pu faire du trading de n'importe chose, quoi, tout à fait. De jus d'orange. Donc, ce qui pose problème, c'est la faillite d'une plateforme de trading. Donc, je crois qu'il y a deux éléments. Ça, oui. Il y a ces plateformes en tant que telles, et puis il y a aussi le fait qu'il y avait sans doute des aspects fraudes. Enfin, on n'a pas forcément d'éléments probants, mais il y a de forts doutes qu'il y avait des aspects fraudes dans cette histoire. Mais, nonobstant ces aspects-là, tous ces fonds, ces plateformes, en fait, qui investissent, qui achètent ou vendent des produits, en l'occurrence des cryptos, mais encore une fois, ça pourrait être autre chose, peuvent aussi avoir en gestion, en quelque sorte, des fonds d'investisseurs qui attendent d'être placés dans ces produits-là. Et il n'y a pas de réglementation sur ces éléments-là.
Il n'y a pas de réglementation.
Et donc, en fait, le risque que courent ces fonds, mais encore une fois, c'est vrai pour cette plateforme, mais c'est vrai pour tous les fonds d'investissement, c'est que c'est un risque de liquidité. C'est-à-dire, au moment où les investisseurs qui vous déposent de l'argent dans ces plateformes ou dans ces fonds ont peur, ils retirent leur argent.
Ça s'appelle un bank run.
Comme ces établissements-là font du levier, c'est-à-dire que quand on leur dépose, je sais pas moi, 10 millions, ils investissent 100. Si les gens commencent à retirer leur argent, en fait, ils ont plus les liquidités en face pour rembourser ces éléments-là. Et c'est ce qui s'est passé. Et ça, c'est un phénomène très classique. C'est ce qui s'est passé il y a 3 semaines au Royaume-Uni quand les fonds de pension ont commencé, les investisseurs dans les fonds de pension ont commencé à retirer leur argent. C'est ce qui s'est passé là. Les investisseurs ont pris peur parce qu'il y avait des rumeurs sur effectivement les aspects fraudes de cette plateforme et de ce créateur de plateforme. Et donc, ils ont retiré leur argent et comme il n'y avait pas assez de liquidités en face pour rembourser ces gens-là, on a un effet faillite.
Oui, mais alors ce que vous décrivez, Sylvie Matera, c'est qu'effectivement, là, on parle de quelque chose qui était pour l'instant centré sur les cryptos. Mais en fait, ça peut arriver partout. Et compte tenu de la taille de cette finance non régulée, alors je ne sais pas si c'est le shadow banking, si le terme correspond à ce que vous décrivez, en fait, les risques systémiques sont parfaitement possibles.
Alors, les risques systémiques...
D'ailleurs, on dit toujours aujourd'hui que les banques, ça va plutôt bien et qu'on n'est pas trop inquiet, mais que le reste...
Alors, les risques systémiques...
Et dans le reste, on met les assureurs, par exemple.
J'ai vu qu'il y avait beaucoup de discours sur est-ce que c'est too big to fail. Et en fait, la taille est importante, mais ce n'est pas seulement la taille. Ce qui est important, c'est l'interconnexion. Est-ce que la faillite d'un des acteurs est susceptible de générer la faillite d'autres acteurs parce qu'il y aurait des liens entre eux? Et en fait, au moment de la crise financière de 2008, ce qui s'est passé, c'est que Lehman Brothers, les autorités avaient mal anticipé les liens que cet établissement avait avec le reste de la sphère financière. Et donc là, il semblerait que ces plateformes, en tout cas, sont finalement auto-centrées. C'est-à-dire qu'il y a très peu de liens entre les banques traditionnelles et ces plateformes. Et donc, même si elle est assez significative en termes de taille, puisque c'est la deuxième plateforme de trading après Binance...
Mais c'est en volume,
ouais,
pas en utilisateur.
Même si ça n'a pas d'aspect systémique en tant que tel, parce qu'il n'y a pas de lien avec d'autres acteurs. Et donc, sa faillite ne risque pas d'entraîner des réactions en chaîne. C'est ça, le risque systémique, c'est quand ça enchaîne des risques dans l'ensemble du système financier.
Et puis en plus, en 2008, on s'est rendu compte qu'au-delà de Lehman Brothers et des interconnexions qui pouvaient exister, il y avait l'ensemble de ces produits de marché qui avaient été... fabriqué avec au terme d'une titrisation très intelligente tant que tout fonctionnait et qui avait inondé le reste du monde de ces fameux crédits subprimes.
Alors, je crois qu'il faut se rappeler d'un truc très très bête qui était vrai dans ces produits-là que vous mentionnez, mais qui est vrai aussi sur le crypto, c'est qu'il n'y a pas de rentabilité sans risque. Si un jour on vous dit qu'un actif dans un environnement où une inflation est très très basse vous rapporte un bon rendement, c'est qu'il y a un loup derrière. Et le loup, c'est en général le risque. Donc ça, c'est un truc de base, mais il n'y a pas de rentabilité sans risque.
Ronan Le Moal, vous êtes le troisième à intervenir sur le sujet. On parlera vraiment de la question de la régulation, à moins que vous vouliez partir là-dessus. Par rapport à tout ce qu'on a dit, qu'est-ce que ça vous inspire?
Pour focaliser sur les crypto-actifs en tant que tel, pas revenir sur le...
Vous aussi, vous dites actif et pas monnaie?
Moi, je dis crypto-actif, c'est pas une monnaie, c'est pas une monnaie.
Les vous allez rentrer en guerre face à Nathalie.
En tout cas, pour ce qui me concerne, je considère que c'est les crypto-actifs en tant que telles,
les pas monnaie.
Moi, j'ai toujours dit, j'ai été invariant là-dessus, et malheureusement, je constate que c'est ce qui se passe, c'est que de deux choses l'une, où ces actifs sont régulés, et pour le coup, ils perdent toute la saveur, l'intérêt que tous ceux qui investissent peuvent y voir, et dans ce cas-là, ça ne vaut plus grand-chose.
Ah,
ou alors, ils ne sont pas régulés, et ça donne des zones d'ombre, comme celles qu'on peut voir aujourd'hui, et dans ce cas-là, il faut s'en éloigner, parce qu'effectivement, c'est très dangereux. Donc moi, quand j'étais dans mes anciennes fonctions, quand j'étais banquier, on m'a proposé des dizaines de fois d'intervenir sur ces sujets, et je ne suis pas allé pour ces deux raisons. Parce que d'un côté comme de l'autre, régulé ou pas régulé, ça me paraissait trop dangereux. Pour autant, dans les cryptoactifs, pour moi, il y a deux choses. Il y a le cryptoactif en tant que tel, et il y a la technologie sous-jacente.
La blockchain.
La blockchain. Ah oui, et la blockchain en tant que telle, c'est parce qu'il ne faut pas jeter le bébé et l'eau du bain, c'est une technologie qui peut être très intéressante dans pas mal de sujets sur lesquels on veut effectivement décentraliser, c'est-à-dire ne plus passer, ce qui est un peu la genèse de tous ces acteurs, essayer de s'affranchir des plateformes de centralisation sur les marchés, par exemple les chambres de compensation, dans les paiements, effectivement, ceux qui font l'interbancarité, essayer de passer à quelque chose qui soit totalement décentralisé. Et donc je pense que autant la technologie blockchain peut avoir pas mal de débouchés, notamment dans la finance, la banque, etc., il y a pas mal de choses à faire, autant pour ce qui concerne les crypto-actifs. Moi, j'ai toujours dit, et malheureusement, on voit ce qui se passe encore aujourd'hui, parce que même s'il s'agit d'une plateforme de trading, il y a comme le sous-jacent qui est quelque part en cause derrière, plus l'attitude du personnage, on va dire. Et j'ai toujours dit qu'il fallait rester très éloigné de ça, parce que, encore une fois, de deux choses l'une, ou c'est régulé, ça ne vaut rien au sens de la valeur qu'on lui donne aujourd'hui, ou ça ne l'est pas, ça, et c'est opaque, dangereux, et
faut s'en éloigner. C'est essentiel ce que vous dites. Soit c'est régulé, si c'est régulé, ça ne vaut rien.
Non,
c'est la question suivante.
Bah, si.
Bon, alors qui commence ?
En tout cas, ça ne vaut rien au sens de la valeur qu'on lui attribue aujourd'hui.
Oui, alors, sur la réglementation.
Tous ceux qui sont. Enfin, il y a un côté un peu religieux, on le sait, derrière les cryptos, et ceux qui sont aficionados de la crypto-monnaie considèrent que c'est la
non. Blockchain.
Juste par de la valeur patrimoniale. Parce que dans cette valeur de ce produit, il y a la valeur peut-être de la monnaie telle que certains voudraient y voir, mais aussi la valeur de l'actif en tant que tel, de la plateforme, la manière dont elle gère les produits, etc. Et moi, je pense que si c'est régulé, si ça devenait une monnaie, effectivement, ça n'aurait plus cette couche de valeur qu'on lui attribue, qui est quand même montée très très haut pour laisser aujourd'hui très très bas.
Sylvie Matera et Nathalie Jorson, sur la partie régulation.
Alors, la réglementation, je trouve ça un petit peu inquiétant de dire que si c'est régulé, ça perd tout son intérêt, sachant que du coup, les investisseurs seraient intéressés uniquement par l'aspect opacité, ce qui est quand même un petit peu...
Je dis ça, l'aspect spéculation.
Bon, alors avant de réglementer, je pense qu'il y a quelque chose de très important à faire, c'est des obligations de transparence, d'information financière.
C'est déjà un peu de la régulation.
C'est assez soft quand même.
C'est soft.
Mais faire en sorte, parce qu'en fait, j'ai dit tout à l'heure qu'il n'y avait pas tellement d'établissements financiers qui étaient pris dans cette tourmente. Mais il y a des investisseurs, notamment des investisseurs particuliers, qui ont voulu investir sur le crypto, qui eux vont perdre leur argent. Et en fait, ils ont été incapables d'estimer leur propre risque parce qu'ils n'avaient pas suffisamment d'informations sur justement cet établissement. Donc je pense que la première chose à faire avant de réglementer, c'est d'obliger à donner de l'information financière pour que les investisseurs fassent leur travail. C'est-à-dire qu'ils regardent quel est le risque qu'ils prennent.
Par rapport à la plateforme qu'ils utilisent. Parce que l'actif en lui-même, depuis le début, tout le monde sait qu'il y a un risque très important.
Alors, par ailleurs, la réglementation. Moi, je pense qu'en matière de réglementation, et c'est vrai d'ailleurs pour l'ensemble des fonds d'investissement, le principal risque qu'ils courent, c'est que des gens demandent le remboursement et qu'il n'ait pas suffisamment d'actifs liquides pour effectuer ces remboursements. Donc, il faut absolument, et si j'étais encore régulateur, je pense que je plaiderais pour un renforcement de la réglementation sur la liquidité. C'est-à-dire obliger ces établissements, c'est le cas pour les banques, on leur oblige à avoir un certain pourcentage d'actifs liquides pour faire face aux dépôts. Vous avez des banques ont des dépôts à vue, on leur oblige à avoir un certain nombre d'actifs liquides pour pouvoir être en mesure de rembourser ces défauts. C'est ce qui assure la sécurité des investisseurs. Je pense que ces fonds d'investissement devraient respecter une réglementation sur la liquidité pour éviter ce genre de choses.
Nathalie, par rapport à cette question de la régulation, parce que je pense qu'il y avait quand même le côté un peu libertarien. Et si on régule le côté libertarien, c'est là où je rejoins un peu Ronald Moal, voilà, si on commence à mettre du crypto bal 3, je le dis de manière un peu tordue, mais c'est un peu ça l'idée, c'est moins sexy.
Alors, il faut distinguer deux choses. Donc, ce qui s'est passé avec FTX, c'est donc une plateforme, ce qu'on appelle la CeFi, c'est-à-dire de la centralisation. Or, la blockchain et des blockchains comme le Bitcoin, parce que c'est une blockchain, le principe est à l'opposé, c'est la décentralisation. Et donc, la transparence de l'information. C'est-à-dire que si vous voulez aller voir les informations sur le Bitcoin, vous pouvez y aller. Vous verrez les adresses, vous verrez les montants, vous verrez les transactions. Il n'y a aucun problème de transparence sur la blockchain, puisque justement, c'est ouvert. Par contre, ce qu'on voit avec la plateforme, c'est que dès lors où on fait du trading, on va s'adresser, c'est-à-dire qu'on va passer par une plateforme, et effectivement, là se pose le problème et arrive le problème de l'opacité
et de la savoir liquidité disponible,
exactement bon. De celui qui gère la plateforme. Mais en aucun cas, et d'ailleurs Binance a très bien réagi, je trouve qu'il fait preuve, il est assez doué, hein, ce fameux Binance, le fameux CZ, c'est son surnom dans le milieu, parce qu'il a tout de suite dit hier, je vais vous publier tout ce que j'ai, mes réserves. Donc il a lancé le mot d'ordre de l'obligation de publication de réserves, où il a mis toutes ses détentions de portefeuille, et donc on peut aller voir, on peut aller vérifier quelles sont les adresses, quelles sont les transactions.
On ne peut que lui faire confiance.
Non, on peut aller voir les adresses.
Oui, mais on peut faire confiance qu'à ce qui est publié. Il n'y a pas d'autorité de régulation.
Là, après, c'est dans toutes les publications, c'est pareil. On peut pas. Alors oui, après, vous pouvez mettre des auditeurs de la Pourquoi pas? Il a aussi appelé pour qu'il y ait un fonds comme un fonds de soutien, comme on pourrait avoir à l'époque, il y a très longtemps, des banques comme une solidarité de place avec un fonds.
Ah ben, ça existe. Hein,
oui, toujours, bien sûr. Mais ça a été créé il y a très longtemps par les banques elles-mêmes et non pas par le régulateur. Faut pas l'oublier non plus. Les banques, enfin, le milieu, il n'a pas intérêt à avoir ça. Il faut bien voir que pour eux, c'est un coût aussi d'avoir une plateforme comme ça qui disparaît. C'est un coût réputationnel. Enfin voilà, donc ils n'ont pas intérêt à ce que ça perdure. Donc ils ont aussi intérêt à ce que ça ne se reproduise pas. Et il faut savoir d'ailleurs que Binance, lui, proposait une assurance à ses déposants. Il avait un petit fonds qui était dédié et qui était dans les contrats. C'est-à-dire que vous avez aussi des plateformes qui sont un peu plus intelligentes ou en tout cas qui ont plus ce souci de se dire si jamais j'ai des déposants qui s'affolent, il faut que je fasse en sorte qu'ils ne s'affolent pas trop vite. Alors que là, on voit bien qu'FTX, c'était vraiment la plateforme des super traders.
Ce qui est certain, c'est que avant que le régulateur ne s'en empare, s'ils ne font pas eux-mêmes, s'ils ne demandent pas eux-mêmes un peu patte blanche, ils sont à un moment où le truc peut vraiment basculer.
Complètement.
Il y a un courtier qui pense que $13,000, c'est parfaitement imaginable pour les bitcoins.
Ça fait plusieurs fois déjà au mois d'avril, on disait que c'était à 12, à 10.
La BRI considère que en l'espace de 7 ans, 80% des gens ont perdu.
C'est parce que les gens qui vont dessus vont au moment où ça a du succès. C'est-à-dire qu'ils ont pas...
Ça va baisser.
On marque une pause en 50 secondes. Renan, et puis après, on avance.
Moi, c'était pas tellement dire que la régulation, c'est pas bien, etc. Ou la transparence. Bien sûr, je suis pour ça, par définition, par ma personnalité, par mon métier. Ce que je dis, c'est que beaucoup de personnes qui ont été attirées par ces plateformes, les cryptos qui étaient dessus, etc., n'y étaient pas pour les bonnes raisons. Ils y allaient parce qu'effectivement, l'effet de mode, la valorisation qui s'envole, on ne sait pas pourquoi d'ailleurs, souvent, il y a des cours qui décrochent. Et donc, c'est là où je dis que typiquement, en termes de raisons et de valeurs d'actifs patrimoniales pour lesquels ces gens-là allaient dessus, ça n'était pas des bonnes motivations. Et donc, c'est pour ça que je dis qu'il faut rester éloigné. Si demain, effectivement, ça devient transparent tel que peut l'être une monnaie éventuellement régulée, ce que je dis simplement, c'est que ça devient une plateforme comme une autre, régulée, avec des gens qui, effectivement, assurent le transport. Et donc, pour ceux qui venaient au départ pour la valeur patrimoniale, combien ça peut valoir ? Ça vaudra moins cher.
Voilà. Bon, j'ai vu des enquêtes d'opinion, ce ne sont que des enquêtes d'opinion, mais clairement, la majorité allait vers ces actifs pour le côté libertarien et pour gagner de l'argent. Il n'y allait pas pour avoir une réserve, un patrimoine. Voilà, c'était quand même très spéculatif. Bon, ça va être hyper intéressant de suivre l'évolution de ce marché.
Tout à fait.
C'est là qu'il vient, prend un petit coup dans l'aile quand même. On marque une pause. Le taux de chômage a très peu reculé, mais il a reculé à un moment où il y a pourtant des signes de récession et de ralentissement de l'activité qui s'installent. Est-ce que les choses ne vont pas si mal que ça ? On posera la question à tout de suite.